Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il est bon de le rappeler, les moustiques font partie des animaux les plus redoutables pour la santé humaine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une espèce bien particulière de moustiques, car en fonction de la famille auquel ils appartiennent, ces insectes volants peuvent être les vecteurs de maladies bien distinctes. Pour le paludisme, ce sont les anopheles. Et dans la famille des moustiques Aedes, nous allons nous intéresser précisément aujourd'hui aux moustiques tigre. Ce petit moustique silencieux au corps zébré peut transmettre les virus de chikungunya, du zika, de la dengue. Et à la faveur du changement climatique ou d'autres facteurs, eh bien ces maladies concernent des zones toujours plus étendues. Longtemps considérées comme des maladies tropicales, ces infections virales sont désormais présentes dans des régions jusque-là épargnées et font même leur réapparition dans d'autres zones débarrassées de ce risque infectieux. C'est pour cette raison que le 1er mai dernier, les autorités sanitaires françaises ont déclenché une alerte, avertissement lié à la prolifération du moustique tigre suite à la forte hausse des températures. Maladies vectorielles, infections, symptômes, nous allons aborder aussi la question des traitements, de la prévention, des dispositifs de lutte contre sa dissémination, expliquer comment s'articule la chaîne de contamination avec évidemment trois gros plans sur ces trois maladies, hein, chikungunya, zika, dengue, qui ont pour point commun de ne pas bénéficier à l'heure actuelle d'un traitement antiviral spécifique. Alerte aux moustiques tigres, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Ces maladies transmises par ces insectes volants, comment limiter le risque d'importation, d'implantation, surveillance, sensibilisation, prise en charge? Avec nous dans les studios de RFI, professeur Areski Isri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticien hospitalier en parasitologie, mycologie au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Les virus transmis par le moustique tigre présent dans les départements français de l'océan Indien. On va donner tout à l'heure la parole au docteur Patrice Poubeau. C'est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Saint-Pierre de La Réunion. En fin d'émission, nous parlerons d'une anomalie congénitale du développement du pied, le pied bot, qui concerne 1 à 2 naissances sur 1000. Il existe des traitements, des prises en charge pour réduire, corriger cette déformation, pour éviter un handicap lourd. On en parlera avec l'ACNA Topkpesa, directeur du Centre national d'appareillage orthopédique au Togo.
Priorité santé sur RFI.
Alors c'est une carte de France particulière, hein, puisqu'il figure désormais 64 départements en vigilance rouge, ce qui signifie que le moustique tigre y est implanté et actif. Ça représente 6 départements de plus que lors du précédent pointage. Et c'est donc à cette espèce particulière qu'on consacre cette émission du jour, professeur Areski Isri, le moustique tigre que l'on trouvait à l'origine très loin du territoire français métropolitain. Au départ, c'était en Asie, dans les forêts d'Asie du Sud-Est. Petite histoire, on parle santé mais aussi géographie. Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici?
Le moustique tigre, Aedes albopictus, est un grand voyageur. En fait, il profite de la moindre occasion pour se déplacer. Et c'est nous qui l'aidons à se déplacer. D'abord, on pense qu'il est parti d'Asie dans des pneus. Vous savez, un pneu dans la nature, il y a toujours de l'eau dedans. Et l'eau, c'est là que les moustiques se reproduisent. Donc les pneus sont transportés par des camions, des pneus à réchapper, des pneus neufs. Et puis, ils sont transportés assez loin, parfois à des centaines, des milliers de kilomètres, avec leurs moustiques.
Donc, on nous importe des pneus, mais aussi des petites bêtes installées.
Voilà, et les moustiques s'installent. Mais pas que. Le moustique peut aussi voyager d'autres manières, par exemple dans des cabines de camions, dans les cabines dans les trains, dans les avions éventuellement. On peut le transporter parfois dans des choses incroyables, des jars, tout simplement, ou des récipients. Surtout que pour ce moustique, les Aedes en général, mais en particulier Aedes albopictus, il ne pond pas, ce moustique ne pond pas dans l'eau. il pond en bordure de l'eau, sur la partie solide, non immergée encore, mais qui doit être immergée par la suite. C'est-à-dire que les œufs sont hors de l'eau et ils peuvent tenir longtemps hors de l'eau, plusieurs semaines à plusieurs mois hors de l'eau. Et c'est seulement quand on les met dans l'eau que ces œufs vont éclore et puis ensuite donner des larves et des adultes. Donc vous voyez, il peut se passer plusieurs semaines entre la ponte du moustique et puis ensuite l'apparition des nouveaux moustiques. Et pendant ce temps-là, ces œufs peuvent voyager.
Alors, vous avez cité le mot Aedes, précisément Aedes albopictus, hein, la nomenclature universelle. Quand on est spécialiste, on utilise ces mots d'origine des langues anciennes, latin ou grec, pour bien comprendre quels sont les animaux en question. Très grande famille, les moustiques, 3500 espèces, vous voyez, je me suis documenté, 400 porteurs de maladies. Et c'est important de dire, en fonction des différentes familles, il y a un risque pour telle ou telle maladie. Nos auditeurs, ils connaissent parfaitement l'anophèle. Alors, dépend à cause du palu. Et là, c'est une autre famille et c'est un autre risque infectieux.
Oui, alors, tous les moustiques appartiennent à la même famille des culicidés. Et puis ensuite, là-dedans, il y a des sous-familles ou des genres. Les Aedes forment un genre, donc le genre Aedes. Et c'est vrai que les anopheles transmettent le palu, c'est bien connu. Les Aedes transmettent surtout des maladies virales, comme la fièvre jaune avec Aedes aegypti, comme la dengue, le Zika
le chikungunya.
Le chikungunya, excusez-moi, pour Aedes albopictus. Les culex, c'est-à-dire les moustiques des égouts, transmettent également d'autres maladies, notamment quelques maladies virales, hein, comme l'encéphalite de Saint-Louis, de l'encéphalite japonaise. Alors, vous voyez, ce qu'il faut regarder, je crois que c'est les moments de piqûre. Les Aedes, en général, sont diurnes. Ils piquent dans la journée, c'est-à-dire tôt le matin et puis en fin de journée. En réalité, ils piquent quand ils ne sont pas au soleil. Donc, à la maison, ils peuvent piquer toute la journée. Et puis ensuite, en début de soirée, vous avez les autres moustiques, les culex, qui peuvent piquer. Et ce sont des culex, des moustiques qui se reproduisent dans les eaux usées. Donc, le moustique des égouts que nous avons partout dans le monde. Et puis, dans la deuxième moitié de la nuit, ce sont les anopheles. Vous voyez, déjà en fonction de la piqûre, on sait si c'est plus un Aedes ou plus un culex ou plus un anophèle.
On va le décrire, hein, ce moustique tigre. C'est d'ailleurs la question que pose Léon, qui cherche à savoir comment distinguer cette espèce de moustique. Léon explique que dans son pays, la RDC, la saison sèche vient de commencer. Il y a beaucoup de moustiques. Comment savoir s'il s'agit de moustique tigre ?
Alors déjà, par la piqûre, s'il pique la journée ou la nuit, vous voyez. Et puis alors, le moustique tigre, c'est vrai qu'il n'est pas facile à voir parce qu'il a un vol silencieux et qui vient souvent sous la table, vous piquez au niveau des chevilles. Très souvent, c'est comme ça. Mais bon, on n'a pas toujours la table et puis on est parfois dehors tout simplement. Mais il vient souvent un peu à ras-terre, enfin, il vole bas. Et pique au niveau des jambes le plus souvent. Ceci dit, moi j'ai vu des enfants dont le visage était complètement tuméfié par les piqûres, donc il peut piquer aussi dans la journée. Maintenant, si on le regarde, si on le voit, on voit un petit moustique qui a des couleurs, qui est noir et blanc. Il est tacheté, il est tigré. Pour ça qu'on l'appelle le moustique tigre.
Mais il est tout petit en même temps, donc ce n'est pas forcément évident de distinguer ses couleurs, non ?
Voilà, mais il est petit, mais on voit bien quand même qu'il y a des taches blanches et des taches noires. Vous voyez, il est plutôt noir avec des taches blanches. Donc ça se voit très bien. Et puis pour un spécialiste qui regarde un peu le thorax, on voit ces deux bandes blanches parallèles. Mais ça, il faut avoir un peu l'œil.
Alors, en même temps, il peut y avoir des moustiques, mais dans certains cas, il peut aussi y avoir une piqûre qui ne va pas être contaminante. Expliquez-nous pourquoi, justement, parce que si ce moustique tigre étend son territoire, pour autant, le risque viral, c'est pas à tous les coups. Dans certains cas, il va y avoir contamination, dans d'autres cas, non. Pourquoi ?
Alors donc, le moustique voyage bien, il peut se déplacer d'une région à l'autre, souvent à l'état d'œufs, les œufs, parfois adultes. Mais ça ne veut pas dire qu'il est infecté, ça ne veut pas dire qu'il va transmettre. Pour qu'il transmette, il faut qu'il trouve un malade porteur du virus, qu'il le pique, qu'il prenne le sang de ce malade avec les virus. Et là, lui-même va être malade, il va avoir des virus, le moustique va avoir des virus, qu'il va transmettre à chaque piqûre. Mais ça, il faut vraiment qu'il ait un malade, hein, déjà.
Alors justement, si vous le voulez bien, ces trois infections dont on a déjà parlé tout à l'heure, ces trois virus, professeur Isery, on va s'arrêter sur chacune de ces maladies. Un point général d'abord sur ces maladies, elles sont le plus souvent bénignes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les négliger.
Voilà, très souvent elles sont bénignes, mais il y a des cas quand même assez sévères, en particulier pour la dengue. Si vous avez 80% des formes qui passent souvent inaperçues ou presque, vous avez 20% quand même qui peuvent être très, très sévères. Alors c'est quoi en fait? C'est pareil pour les autres, même si le Zika a encore quelque chose de particulier. Le Zika chez la femme enceinte, c'est pas très bon pour le fœtus, pour le nourrisson qui va venir. On peut avoir des microcéphalies. Alors, très souvent, c'est quoi? C'est une petite fièvre, une fatigue. Et puis, parfois, il y a vraiment des douleurs musculaires, articulaires. D'ailleurs, voilà, on a l'impression, avec le chikungunya, on a l'impression d'être cassé, en quelque sorte, tellement la personne malade a des douleurs un peu partout. Voilà un petit peu comment ça se manifeste. Mais très souvent, c'est juste un petit syndrome grippal. Il n'y a presque rien et ça passe inaperçu.
Alors, on s'arrête sur la dengue pour commencer. Les symptômes que vous venez de nous décrire, est-ce qu'il y a dans le cas de la dengue des complications possibles?
Oui, alors les complications sont souvent des formes hémorragiques qui peuvent, dans les cas les plus extrêmes, entraîner la mort. Donc oui, des complications peuvent apparaître dans à peu près 20% des cas. Il y a plusieurs virus de la dengue, il y en a déjà 4, déjà qu'on connaît bien. Et quand on est immunisé contre l'un, d'ailleurs on n'est pas vraiment immunisé, on ne l'est pas forcément contre les autres. Et très souvent quand on a une deuxième infection, c'est là qu'on peut-être avoir plus de risques de formes plus sévères.
Et là encore, l'incidence de la dengue a vraiment progressé, professeur Isery, au cours des dernières décennies. Comment on l'explique? Là aussi, c'est le facteur environnemental avec le réchauffement climatique, mais aussi la mondialisation, ces échanges qui se multiplient à travers la planète. Pourquoi la dengue est-elle de plus en plus présente?
Ah, vous avez tout résumé.
Oui, mais il y a de quoi dire encore.
Vous avez tout résumé. C'est vrai que le réchauffement climatique déjà favorise le développement du moustique un peu partout dans le monde, là où ça s'est réchauffé. Le moustique, il n'aime pas le froid, donc il lui faut de la chaleur. Il faut de la chaleur, mais aussi de l'humidité, de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, plus la chaleur remonte vers le nord, plus le moustique va remonter vers le nord. Donc, ça explique un peu sa dissémination.
Oui, mais j'ai une question quand même. Oui. On dit que maintenant, il y a y compris du moustique tigre en région parisienne. Il arrive qu'il neige à Paris au mois de décembre, au mois de février. Il se met où, le moustique tigre?
Oh, il peut très bien hiberner.
Il hiberne, d'accord.
Il peut très bien hiberner dans des caves, dans des endroits protégés. Vous savez, déjà, même quand il fait chaud, même quand on va dans des pays chauds, le moustique, vous ne le trouvez pas en train de bronzer au soleil. Il aime bien se mettre à l'abri. Il se cache. Il a peur du soleil. Donc en France, quand il fait froid, par exemple ici chez nous, il peut aller dans le métro, par exemple, ou dans les caves. Et là, il peut passer l'hiver tranquillement.
Du côté de la prise en charge, là, c'est ce qui intéresse Ferdinand de Ouagadougou au Burkina. Il demande sur Facebook, est-ce qu'il y a un traitement spécifique et efficace contre la dengue?
Alors, il n'y a pas de traitement contre les virus. Aujourd'hui, on ne connaît pas de traitement. Mais pour la dengue, il y a des vaccins, il y a maintenant un vaccin qui commence à donner de très bons résultats, même si c'est encore discuté, même si ce n'est pas encore parfait.
Et c'est quoi? C'est au stade expérimental ou il y a déjà des campagnes?
Il y a déjà des applications.
Dans quel cadre? Excusez-moi, là je suis curieuse. Si je vais par exemple prendre demain un billet d'avion pour une zone qui est reconnue comme une zone épidémique de dengue, est-ce que je peux me faire vacciner, oui ou non?
Non, il n'est pas encore donné largement au public, mais ça commence à... Je crois que le vaccin commence à être bon. Je ne suis pas un grand spécialiste du vaccin de la dengue.
Mais en tout cas, on y travaille. Les chercheurs y travaillent. À propos du chikungunya cette fois, question Facebook d'Alain qui vit à Uvira, en République démocratique du Congo, qui demande quels sont les symptômes pour un patient qui est atteint de chikungunya.
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart du temps, ça passe inaperçu. Sinon, on va avoir de la fièvre. Et puis, cette impression d'être cassé. On a mal partout, les articulations. On n'est pratiquement courbé tellement on a mal partout. C'est ça les symptômes principaux.
On voit qu'il y a
fièvre et douleur.
Il y a vraiment un faisceau de symptômes communs sur ces différents virus. Comment est-ce que les médecins réussissent à distinguer une maladie par rapport à l'autre ?
Alors déjà pour le chikungunya, il y a plus cette notion de douleur généralisée et articulaire en particulier. C'est plus accentué avec le chikungunya. Pour les autres maladies, oui, effectivement, il y a des symptômes communs, mais on vient de le dire, pour la dengue, il peut y avoir des formes hémorragiques. Pour le Zika, ça peut être catastrophique au niveau du fœtus. Mais globalement, ce n'est pas toujours la même répartition géographique. Mmh. Il y a la notion d'épidémie. Mmh. Quand il y a un cas de dengue, quand on fait le diagnostic d'un cas de dengue, après, il est facile de diagnostiquer les autres cas de dengue. Quand c'est un chikungunya, on sait que ça va être une épidémie, donc on va les diagnostiquer facilement. Le Zika, pareil. Et puis, il y a le diagnostic lui-même. C'est-à-dire, là, on fait des prises de sang pour aller voir au niveau de la sérologie, en particulier, ce que c'est comme maladie.
Et forcément, cette curiosité sur les traitements. Là, c'est Zakirou et Ali, deux auditeurs du Tchad, qui demandent s'il y a un traitement, encore une fois, efficace contre le chikungunya.
Alors, il n'y a pas de traitement contre les virus. La seule chose à faire, c'est d'essayer de calmer les douleurs, la fièvre, le repos parfois. C'est tout ce qu'on peut faire. Et éventuellement, si on est dans une situation grave, d'aller à l'hôpital pour une prise en charge spécifique.
Alors, professeur Ariskizri, on comprend bien, dans le cas de ces différents virus, il y a un syndrome fébrile de la fièvre. Donc, pour les femmes enceintes, là, il faut faire attention.
Ah, il faut faire très attention, en particulier avec le Zika, mais avec tous les virus, d'une manière générale.
Alors, on est aussi maintenant sur ce fameux Zika. Tout à l'heure, vous avez utilisé un terme peut-être un petit peu complexe et technique pour les auditeurs, microcéphalie, micro minuscule, céphalie, on imagine que c'est la tête. Qu'est-ce que c'est exactement cette microcéphalie ?
En fait, ce qui a été remarqué tout à fait au début de l'épidémie du Zika, notamment en Amérique latine, c'est que beaucoup d'enfants qui naissaient d'une femme qui a été touchée par la maladie, par le Zika, avaient une anomalie, si vous voulez, une tête qui ne s'est pas normalement développée, qui est restée petite.
Mmh. Au niveau du crâne, une sorte de déformation qui donne au bébé une allure assez spéciale.
Voilà, une tête qui est plutôt petite et qui ne permet pas un bon développement du cerveau.
Et dans le cas de Zika, on évoque aussi une transmission par voie sexuelle. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus ?
Là, honnêtement, je ne peux pas trop vous répondre, mais c'est vrai que quand on est atteint d'un virus comme le Zika, on fait des virémies, c'est-à-dire qu'on a un virus qui se dissémine largement dans le corps, qui peut passer au niveau du sperme, donc chez pour l'homme, et au niveau des sécrétions vaginales pour la femme.
Depuis tout à l'heure, on dit qu'il s'agit de virus, il n'y a pas de traitement spécifique. Pour bien expliquer aux auditeurs, un Zika, chikungunya, dengue, trois infections virales, on l'a dit, et non parasitaires, comme c'est le cas pour cette autre maladie très connue, le paludisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, professeur Ariskizri, la différence entre les deux ? Qu'est-ce que ça change d'être piqué par un moustique vecteur d'une maladie parasitaire et d'une maladie virale ?
Alors, globalement, tous les moustiques peuvent transmettre des virus et des parasites, et donc plusieurs. Si on prend déjà l'anophèle, qui peut transmettre, lui, plus particulièrement le paludisme, l'anophèle va s'infecter, il va avoir un parasite qui va se développer chez lui, dans son estomac, en fait, dans la partie externe de l'estomac, et il va être porteur de ce parasite toute sa vie, et il va l'injecter quand il va aller faire son repas de sang en injectant sa salive. La différence avec les autres moustiques, c'est quoi ? En fait, le virus, il est beaucoup plus petit. Il se transmet systématiquement chaque fois que le moustique pique. Il n'y a pas une énorme différence, si vous voulez. C'est simplement que le moustique... je crois qu'il faut expliquer les choses un peu autrement. Prenons le sujet autrement. Les parasites sont des animaux. Des animaux qui se reproduisent, qui se multiplient. Il y a même une reproduction sexuée. Mais ils se développent chez le moustique et chez l'humain. S'ils restent chez l'humain, l'espèce disparaît. Donc il lui a fallu à ce parasite trouver un moyen de passer d'un humain à l'autre. C'est le moustique. Il s'est adapté. Il s'est adapté aux défenses du moustique et donc il peut se développer chez ce moustique. Mais pas chez tous les moustiques. Il a réussi à se développer chez l'anophèle, pas tous les anophèles, chez qui les défenses ne le détruisent pas. C'est un phénomène d'adaptation. Et c'est comme ça qu'il se développe chez l'anophèle et que l'anophèle peut ensuite le transmettre. Voilà comment ça se passe. Alors, c'est la même chose pour les virus. Certains virus se développent parfaitement chez un moustique et pas chez un autre.
À chaque, donc, voilà à la chaque différence. Moustique, son propre virus.
On ne peut pas dire exactement à chaque, mais un groupe de moustiques peut transmettre un groupe de... Peut être transmis par un groupe de moustiques et virus.
Voilà, dans ce cas de transmission, on parle de cas importés et de cas autochtones. C'est quoi la différence ?
Alors, les cas importés, c'est quelqu'un qui arrive avec sa maladie. Donc, il vient, par exemple, d'un pays, d'Afrique, d'Asie. Il a été piqué là-bas et il développe la maladie. Il commence à la développer là-bas ou dans l'avion ou en arrivant. Il peut la développer même ici. Mais c'est un cas d'importation. Alors que si la personne n'a pas voyagé, qu'elle a été piquée en France, ici, par un moustique qui a été contaminé sur quelqu'un d'autre, là, ça va être un cas autochtone.
Et donc, c'est important, quand on est spécialiste de ces maladies, de cette transmission, d'identifier l'origine précise pour mettre en place le dispositif de surveillance.
Absolument, en particulier quand il s'agit d'une épidémie, d'une maladie qui n'est pas épidémique chez nous, qui n'est pas endémique chez nous. Il faut aller tout de suite essayer d'étouffer le problème dans l'œuf. On sait que c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui a été piqué par un moustique qui a développé la maladie. Donc on sait qu'il y a des moustiques contaminés là où il habite. On peut aller tout de suite détruire tous les moustiques du coin et éviter ainsi la dissémination de la maladie.
Comment se passe le dispositif d'alerte, justement, si on a dans une région en France, j'imagine la zone de Montpellier, un médecin généraliste qui reçoit un patient fébrile, il va peut-être lui faire passer ce test ou pas, en fonction du fait qu'il sera ou pas sensibilisé au risque infectieux. Déjà, il faut qu'il y ait cette formation et cette information qui passe. Et après, le cas, il remonte comment jusqu'aux instances de surveillance ?
Alors, c'est vrai que c'est souvent les médecins généralistes qui voient les malades en premier. Et j'avoue qu'il y a d'excellents généralistes. Hein. Il y en a qui font vraiment le diagnostic. Mais souvent aussi, ils ne savent pas faire le diagnostic. Alors, ils l'adressent à l'hôpital, lequel l'hôpital va immédiatement le signaler au service de santé, l'ARS en particulier. Et puis, il y a une alerte qui est déclenchée.
Donc, il y a tous les systèmes qui sont mis en place pour faire remonter les informations et justement prendre les décisions qui s'imposent. On va poursuivre notre échange, professeur Ariskizri. On ira dans l'océan Indien à La Réunion, donner la parole à l'un de vos confrères. On va bien sûr également parler de la prévention. On ne l'a pas encore abordé, mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Donc, suspense en deuxième partie d'émission. Ces fameuses mesures indispensables pour empêcher la prolifération de ces moustiques tigres. Plus on en parle, moins je les aime. Ce sera juste après Oumu Sangaré, Sarama.
Solo un calo lluvia.
Priorité santé sur RFI, Zika, chikungunya, la dengue, trois virus, un seul vecteur, le moustique tigre, symptômes, traitement, prévention. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Areski Izri, praticien hospitalier en parasitologie, mycologie, au service de parasitologie de l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne. Alors on l'a dit, hein, ce moustique qui s'étend à la faveur du réchauffement climatique, qui étend son territoire, sa présence sur la planète, pour prévenir et gérer les risques liés à ces maladies vectorielles, il faut donc surveiller. Encore beaucoup de travail à faire en la matière, professeur Izri. Pour cette surveillance, il faut vraiment amorcer le mouvement. Alors parfois, elle est bien installée. Et puis parfois, il faut lancer les initiatives.
Oui, absolument. Le seul problème, c'est qu'on manque encore beaucoup de spécialistes de moustiques, donc des entomologistes. Parce que comment voulez-vous le signaler si vous n'arrivez pas à le reconnaître ? Il faut donc former des gens pour reconnaître ce moustique tigre. Donc il faut aussi des équipes sur place. Je crois que c'est ce qui manque le plus. Mais une fois qu'on l'a signalé, une fois qu'il a été signalé quelque part, il y a beaucoup de services de santé qui vont essayer ensuite d'aller le chercher, d'aller le retrouver un peu partout. Nous, on a commencé à le surveiller dans le sud-est, c'était du côté de Nice, Montant, dans les années 90. Finalement, c'est à la fin des années 90 qu'il a été vraiment retrouvé. Et quand il a été retrouvé, il y avait déjà une épidémie de dengue en Italie. Donc vous voyez, ça va très vite. Et puis il s'installe très très vite. Avec les déplacements, avec le réchauffement climatique, il le diffuse de plus en plus en France. Je crois que la surveillance maintenant... Oui, on peut toujours continuer à le surveiller, mais il est déjà installé presque partout sur le territoire.
Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas y faire grand-chose à sa prolifération aujourd'hui, une fois qu'il est installé ?
Ah, vous savez, si on pouvait lutter contre les moustiques, ce serait génial.
Oui.
C'est pas évident.
C'est
hein.
évident.
C'est
oui,
pas
c'est
évident.
Sûr.
Alors,
c'est sûr.
Le moustique tigre, on peut l'éviter un peu soi-même. Alors, chez soi, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir des collections d'eau. Vous savez, on parle beaucoup de soucoupes, de pots de fleurs, on parle beaucoup de gouttières, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Hein. Un pot qu'on laisse dans le jardin avec éventuellement un petit peu d'eau hein, pour une raison ou pour une autre. Une piscine d'enfant qu'on abandonne un peu, qu'on laisse un peu dans le jardin. Une coupelle, effectivement, une boîte de conserve. Des toutes petites collections d'eau suffisent au bonheur de ce moustique. C'est là qu'il va se reproduire.
Ça veut dire que, par exemple, pour protéger la nature, on peut collecter les eaux pluviales aussi pour arroser le jardin. Dans ces cas-là, il faut fermer, il faut couvrir. Ou même si c'est fermé, même si dans un réservoir fermé, il peut y avoir un risque de prolifération.
Alors, vous abordez encore un autre sujet. Mmh. Effectivement, tous les réservoirs d'eau ouverts sont favorables à la reproduction des moustiques.
Oui, on voit que ce n'est pas facile.
Si on met une moustiquaire dessus, il faut qu'elle soit à maille très fine, hein, parce que sinon le moustique, le tigre en particulier, qui est tout petit, peut passer à travers les mailles. Donc une moustiquaire très fine. Ou alors, si c'est des grandes collections, à ce moment-là, on peut mettre du poisson. Poisson larvivore, des petits poissons, à condition que ce ne soit pas de l'eau potable. Voilà.
Alors, se protéger des piqûres quand les moustiques sont là, il y a aussi les méthodes. Est-ce qu'on va dire que tout ce qui s'applique, par exemple, pour le paludisme, vaut pour aussi le moustique tigre ou pas vraiment ?
Non, pas vraiment. Non, ce n'est pas du tout les mêmes gîtes larvaires. Ce n'est pas du tout les mêmes lieux de reproduction.
Et puis, vous nous avez expliqué aussi piqûres diurnes, piqûres nocturnes. Donc, il y a aussi cette différence.
Oui, il y a beaucoup de différences entre ces deux genres de moustiques. L'anophèle se reproduit dans de l'eau douce, en général des bras morts de rivières, des collections, des petites inondations de prairies. Aïdès, lui, c'est des petites collections d'eau, c'est toujours autour de l'habitat humain, éventuellement un peu dans la forêt, mais pas très loin. Vous savez, il y a des plantes dont les feuilles s'enroulent un petit peu et ça conserve de l'eau quelque temps, ça suffit au bonheur des moustiques. On a une plante qu'on appelle l'arbre du voyageur, que l'on trouve beaucoup dans les régions tropicales, les Antilles par exemple, la Réunion. Eh bien, vous savez, pourquoi on l'appelle l'arbre du voyageur ? C'est des sortes de palmes, et puis en fait, à la racine de la feuille, il y a toujours une petite collection d'eau. Et ben voilà, quand il pleut, il y a de l'eau, c'est alimenté, il y a des moustiques qui viennent se reproduire. Alors que les anophèles, c'est vraiment autre chose, vous voyez ?
Mais malgré tout, se protéger des piqûres, on a des moyens pour le faire ?
Alors, se protéger des piqûres de moustiques, ça dépend si c'est en France, si par exemple on va à Cannes, puisque moi j'y étais la semaine dernière, et que j'ai vu mon petit-fils malheureusement piquer très nombreuses piqûres d'Aïdès. Là-bas, on peut se protéger en mettant par exemple un répulsif sur la peau. Mmh. Il y a des produits répulsifs, qui sont très efficaces, mais ça, c'est bon pour quelques jours, une semaine, quoi, pas beaucoup, pas plus. Mais si on va longtemps dans un endroit où il y a des moustiques, ou bien si on vit sur place, on ne peut pas mettre tous les jours ces répulsifs. Donc, il faut essayer de trouver d'autres moyens. Le meilleur moyen, c'est d'éliminer au maximum les gîtes larvaires. Sinon, ensuite, on peut utiliser des moustiquaires pour se protéger à l'intérieur de l'habitation, mais pas à l'extérieur. Or, lui, le moustique, il pique aussi bien dehors qu'à l'intérieur. Donc, voilà, un moustiquaire imprégné d'insecticides. On peut mettre éventuellement des diffuseurs électriques d'insecticides ou des serpentins. Mais bon, c'est un peu aléatoire.
On ne peut pas être protégé tout le temps. On va partir tout de suite pour l'île de la Réunion.
Priorité santé sur RFI.
En ligne avec nous, docteur Patrice Poubeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Sud Réunion à Saint-Pierre. Et docteur, on parle depuis le début de cette émission avec le professeur Isry de ces trois virus transmis par le moustique tigre. Le département d'outre-mer, la Réunion, a connu deux épidémies assez différentes de chikungunya. Ça remonte à quand ?
Alors, la première épidémie date de 2005 à 2006 à La Réunion. Ça a été la première grande épidémie qui est survenue dans un pays avec des moyens médicaux évolués. Donc, on a pu décrire toute cette maladie et faire pas mal d'études dessus. Voilà, l'épidémie elle a surtout été très très importante de novembre 2005 à avril 2006 avec une étude après de séroprévalence qui avait montré que 34% de la population avait été atteinte de cette arbovirose.
Est-ce que l'on sait justement si le chikungunya, une fois qu'on a été piqué, une fois qu'on a eu le virus, on est protégé éventuellement pour d'autres contaminations ? Est-ce qu'on est immunisé ?
Alors, c'est une bonne question. Et en 2005-2006, on s'était effectivement posé la question. Il n'y avait pas beaucoup de données là-dessus. Il semble tout de même qu'il y a une immunité qui soit très, très, très prolongée. On n'a pas eu de patients qui ont été contaminés deux fois de suite. Et en particulier, il y a eu ensuite une petite épidémie de 200 ou 300 cas sur la Réunion à Saint-Paul, où là, c'était des gens qui n'avaient pas étaient en contact, souvent des gens qui habitaient dans les hauts de l'île qui étaient en métropole, donc des gens qui n'avaient pas été en contact avec des virus en 2006. Donc probablement que c'est une maladie effectivement immunisante.
Alors, on a eu donc cette très forte contamination sur la période 2005-2006, près du tiers de la population touchée. À ce moment-là, est-ce que certaines personnes ont eu des atteintes plus sévères avec des complications ?
Alors, ça a été un choc énorme sur l'île de La Réunion, parce que cette maladie, bon, elle donne évidemment de la fièvre, mais surtout des douleurs articulaires extrêmement invalidantes. Donc les gens, même les jeunes, étaient très très handicapés, quoi. Des fois pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il y a eu un impact évidemment très important au niveau aussi politique, parce qu'évidemment il fallait remobiliser la lutte anti-vectorielle, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. Et donc ça a eu un impact très important. Alors, il y a eu peu de décès quand même, il y a eu quelques décès avec des formes rares neurologiques ou cardiaques ou hépatiques, mais les autres décès sont un petit peu comme avec d'autres infections, sont liés surtout aux comorbidités, aux gens qui étaient très âgés, qui avaient des insuffisances rénales, etc., qui sont décédés parce qu'ils ont fait des complications, ils étaient... Faut savoir que cette maladie, elle rend un peu, pendant quelques temps, un peu grabataire, dans son lit, et on ne peut pas bouger.
Est-ce que finalement, cette flambée, cette épidémie, véritablement, puisque le tiers de la population a été concernée, ça a constitué un électrochoc qui a vraiment réamorcé, relancé la surveillance et la lutte antivectorielle ?
Oui. À La Réunion, la lutte antivectorielle les moyens avaient baissé depuis. Il y avait du palu, du paludisme à La Réunion dans les années 60. Ensuite, comme il n'y en avait plus et qu'il n'y avait pas vraiment d'épidémie, évidemment, les moyens ont diminué progressivement. Et effectivement, cette infection à chikungunya a permis de remobiliser des fonds pour avoir une lutte antivectorielle importante. Il y a eu aussi des créations d'un laboratoire de recherche, etc. Donc ça a un petit peu, boosté un peu la recherche sur cette maladie.
On peut dire aussi que ça a marqué les esprits. Il y a eu un avant et un après. À partir de ce moment-là, la population est davantage sensibilisée.
Oui, alors il faut savoir que le chikungunya, par rapport à d'autres infections virales qui durent en général 10 jours, 15 jours, et puis on va bien, il y a beaucoup de gens qui ont eu des douleurs articulaires et des fatigues pendant plusieurs mois, voire même pendant 2 ans, 3 ans.
Un vrai fardeau.
Donc avec
des
séquelles, une espèce de rhumatisme chronique après cette maladie. Donc, évidemment, on continuait d'en parler, quoi, parce que c'était toujours d'actualité. Je ne sais plus que votre
par question, rapport justement à cette sensibilisation en termes de messages de santé publique, puisqu'on dit justement, on a bien compris qu'il ne fallait pas baisser la garde, les populations sensibilisées, les moyens, ils sont toujours là.
Alors, vous avez parlé effectivement pour la population des gîtes larvaires dans les pots de fleurs, dans les vieilles carcasses de voitures, etc. Donc il y a eu effectivement une sensibilisation, les gens ont fait attention, les gens ont nettoyé leur jardin, etc. Et puis c'est vrai qu'après, la tension est rabaissée, et ce n'est que depuis 2018-2019 que là nous avons une autre épidémie, en particulier la dengue, qui est une arbovirose, qui est également liée à des piqûres de moustiques avec la Aedes. Eh bien, les mesures un peu ont été de nouveau réactivées.
Mais le message, c'est de ne pas baisser la garde. Comment on fait justement pour maintenir cette vigilance ? On ne peut pas sans arrêt y penser, ou alors simplement changer certaines habitudes. Comment est-ce qu'on fait passer ces messages ?
Alors, il y a des périodes, si vous voulez, pour prendre la dengue, les périodes, c'est surtout de février à juin. Donc, on sait qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de moustiques, surtout plus il pleut, il y a des moustiques. Et donc, les gens, enfin, moi personnellement, quand je vais dans mon jardin, je vois des moustiques, je fais attention, je suis sensibilisé. Donc, la plupart des gens sont quand même sensibilisés, mais Mais vous avez raison qu'on ne peut pas, on peut pas lutter contre ce moustique qui se trouve partout et qu'on arrive malheureusement toujours à être piqué. Hein. Mais bon, l'intérêt, c'est quand même d'utiliser les répulsifs plutôt en fin de journée, hein, puisque c'est à ce moment-là que le moustique pique. Donc utiliser les répulsifs pour éloigner les moustiques de soi-même, quoi.
Donc des conseils pratiques au-delà de la vigilance, notamment au niveau des institutions. Merci beaucoup docteur Patrice Poubeau, hein, pour toutes ces explications. Bonne journée à vous à Saint-Pierre de la Réunion. On vous retrouve professeur Areskizri pour cette dernière partie de notre échange. Cette question de la vigilance en période, on va dire, de calme hors épidémie. Comment faire passer les bons messages sans non plus donner aux populations une sorte de sentiment de psychose?
Moi, j'ai toujours prêché pour l'information générale. Et je crois que le meilleur moyen d'informer les populations, c'est de passer par les écoles. Mmh. Alors, mais ça, ça ne se fait pas. Mmh. Et ça m'a toujours surpris. Pourquoi est-ce que dans les écoles, on n'enseigne pas des choses élémentaires? Où se reproduisent les moustiques et qu'est-ce qu'ils donnent et comment on peut éviter ça? Ça, je pense que ce serait quelque chose qui devrait être lancé un peu par les médias pour essayer de gagner cette partie-là. Vous voyez...
Vous prêchez une convaincue.
Ah mais attendez, moi j'en suis certain. Hein. J'ai été aussi à La Réunion, alors ce n'est pas que dans les maisons qu'on est piqué ou dans le jardin, mais aussi si on va se baigner, vous savez, il y a beaucoup de cascades, beaucoup de chutes d'eau à La Réunion et de bassins comme ça où on peut se baigner. Et en même temps qu'on se baigne, eh bien, on se fait piquer. Hein. Dès qu'on est sur le bord, on se fait piquer. C'est-à-dire que le moustique, il est là, il est bien implanté et il sera toujours là. On ne peut pas lutter contre... On peut essayer de faire des insecticides un peu à la maison, tout ça, mais on ne pourra pas l'éliminer. Donc, je pense qu'il faut apprendre aux gens à s'en méfier et à s'en protéger, comme on vient de le dire.
À vivre avec. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée à vous, professeur Areskizri, en vous rendant à vos patients de l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Merci.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Diagnostic et prise en charge précoce, des recommandations essentielles lorsque l'on évoque cette malformation congénitale, le pied bot. On en parle maintenant, alors que la journée internationale dédiée à cette anomalie du développement du pied se déroule le 3 juin. En ligne avec nous, l'ACNA Topkespa. J'ai mal prononcé, je recommence. Topkespa, faut dire, vous ne facilitez pas avec toutes ces consonnes, comme on dirait au Scrabble. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous allez bien?
Oui, bien.
Vous êtes directeur. Directeur du Centre national d'appareillage orthopédique du Togo. Alors pour vous, hein, c'est vraiment essentiel d'attirer l'attention sur les avantages d'une prise en charge le plus tôt possible, on va dire rapidement après la naissance des enfants. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, effectivement, le pied est beau.
Alors,
dont le pied regarde en dedans, ça, comme on le peut le dire simplement, et que l'enfant, en grandissant, ne peut pas marcher si le pied là est dans cette position.
Quand on dit prise en charge, monsieur, quand on dit prise en charge du pied bot, ça veut dire quoi précisément?
Oui, la prise en charge consiste à utiliser une méthode qui a trois étapes essentielles. La première, c'est le plâtrage et la manipulation. Et donc, nous faisons une fois la semaine. Et le nombre de plâtrages dépend du degré ou bien de l'atteinte de cette déformation de l'enfant.
Ça veut dire que quand le bébé naît avec la malformation, on place un plâtre qui va en quelque sorte rétablir l'angle du pied afin que plus tard, il puisse marcher correctement.
Voilà, c'est la première étape.
Ensuite,
qui permet de manipuler, c'est une façon de ramollir cette déformation et de poser le plâtre. Et pendant plusieurs séances, en fonction du degré de l'atteinte. Et la deuxième étape, qui peut être facultative en fonction de l'évolution, c'est la ténotomie, qui consiste juste de faire une petite section du tendon d'Achille pour libérer le degré de déformation.
Donc une petite chirurgie, et ensuite il va y avoir quoi ? Il va y avoir la troisième étape ?
La troisième étape, c'est le port des attelles.
Le port des attelles. Alors, ça veut dire que ces attelles, elles sont fabriquées où et comment ? Ah, hélas, on a la ligne qui est en train de se détériorer. J'essaye une nouvelle fois parce que des fois, il se peut qu'avec quelques secondes de patience et un petit peu de chance, cela se rétablisse. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ou la ligne a été coupée ? On essaye de renouveler l'appel, bien sûr, pour poursuivre cet échange, pour bien comprendre pourquoi il est important de corriger cette malformation du pied le plus tôt possible afin d'éviter des formes de handicap sévères qui pourront ensuite porter préjudice bien évidemment au développement et à la croissance de ces enfants. On est en train, de l'autre côté de la régie, j'explique tout aux auditrices et aux auditeurs, on est en train d'essayer de rétablir la connexion. Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Top Pespa ? Est-ce que
oui,
vous êtes
avec
nous ? Ah bah c'est parfait. Alors justement, cette prise en charge des enfants, cette correction, elle est possible jusqu'à quel âge ?
Elle est possible jusqu'à 2 ans au maximum. Celle que nous traitons ici facilement, c'est de 0 à 2 ans, ce qui est totalement récupérable sans chirurgie à grande envergure.
On comprend bien que ce message s'adresse aux parents, mais il s'adresse peut-être aussi aux soignants, par exemple aux sages-femmes, qui détectent le pied beau à la naissance parce que ce n'est pas forcément évident, puis on a l'esprit ailleurs quand on vient d'avoir un bébé, qui détectent et qui doivent vous référer. Ça se passe comment ? Qui vous transmet les cas aujourd'hui ?
Effectivement, c'est les soignants. Les soignants, la population, parce que nous avons...
Hélas, la technologie n'est pas avec nous et hélas, sur cette information sur le pied beau, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le message doit passer de la part des soignants en milieu hospitalier, donc dans les maternités, dès les premiers jours pour orienter vers les services compétents. Beaucoup de questions qui se posent aussi sur ces appareillages, notamment en termes de financement, de budget, du coût pour les familles, puisqu'évidemment, cette dépense doit être assez compliquée à consentir quand on est issu d'une famille modeste. En tout cas, nous souhaitions informer, communiquer au sujet de cette malformation. On est navré, hein, mais on n'y est pas pour grand-chose pour la qualité de l'échange. Et on remercie notre interlocuteur. On n'a pas eu assez de temps pour échanger, mais c'est comme ça. L'ACNA, Top Pessa, merci beaucoup en tout cas pour ces brèves explications sur cette sensibilisation à la prise en charge du pied beau à des vues de correction. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Vous l'avez compris, c'est du direct. À C'est tout, Samaké, Ophélie Lassen, Didier Bleu, Raphaël Lazizi avec nous aujourd'hui. Demain dans Priorité Santé, on va retrouver le docteur Catherine Solano, sexologue, qui va répondre à toutes vos questions en direct pendant 50 minutes. Relations enthousiasmantes, relations épanouissantes, bonheur et sexualité. On attend vos témoignages demain dès 9h du temps universel. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.